Marceau le midi.
Yes! Voyez quoi que ce soit, 418-971-1021, comme disait le monsieur à la grosse voix. Et si vous êtes sur Twitch, ben vous assistez à tout ce que Pascal fait pendant la pause.
Ah oui! Oui, oui, des appels, niaiser
les amis. Le chef d'orchestre.
Ouh! Ouais. Genre un niaiser ses gains.
Fais ci, fais ça.
Mais j'ai pas le choix avec toi.
Tu n'utilises pas ta baguette.
Non, je pourrais utiliser un fouet, par exemple.
Ah ouais, dans tes rêves. Ouais.
Non, c'est ça, dans mes cauchemars. Mais pour peut-être l'utiliser d'une manière disciplinaire.
Quand j'ai été voir.
De professionnel, oui.
Quand j'ai été voir l'hommage à Nirvana au Grand Théâtre de Québec.
Oui.
Il y avait le chef d'orchestre qui était là avec ses baguettes.
Mm-hmm.
Puis je me disais, les gestes qu'il fait, là, est-ce qu'ils sont suivis là, à 100% par les musiciens, où les musiciens sont tellement rodés qu'ils savent exactement quoi faire à l'instant près.
Bien, j'ai été dans une chorale quand j'étais jeune. Ouais. On va pas en parler longtemps, puis on va pas en parler souvent. OK? Puis, je me souviens que Renée, celle qui nous gérait, ouais. là, qui gérait la chorale, elle avait la baguette. C'était une baguette en passant. Là. Moi, elle n'avait pas deux. Puis.
T'as raison, c'est une baguette.
Elle soignait ça et c'était aidant. Je me souviens de trouver ça essentiel à la dite chorale, sauf que je sais plus pourquoi. Parce que quand tu y penses, il y a comme des gestes, mais probablement que tu es habitué à ces gestes-là, puis tu t'en rends pas compte quand tu es ouais. dans une organisation comme ça.
Moi, j'ai l'impression qu'ils ont parti les orchestres demain, puis se sont dit, on changera pas, on
non,
va garder.
Je te le jure ouais. que j'ai eu la réflexion récemment, puis parce qu'on en parlait ensemble quand tu es allé, puis je me souviens à quel point c'était essentiel. Si René était pas devant nous, il n'y avait pas de chorale, puis ça souvenait pas comme il fallait.
Parce que. À vue de main de même, quand tu es dans la salle, tu regardes le chef d'orchestre, tu te dis, c'est-tu vraiment lui le plus payé ici, là, avec ses baguettes?
Ah, moi, je trouve ça tellement beau et gracieux en plus. Là. Wow!
Hey, qu'est-ce qui se passe avec nos politiciens? Lorsqu'il y avait de grands débordements à la grandeur du Québec, du moins à certains endroits, Montréal a été touché, Louisville a été touché, Trois-Rivières aussi. Les politiciens ne sont pas sortis. Il y a eu quelques messages, deux sur Twitter. Twitter, il n'y a pas grand monde là, à part des journalistes, bien honnêtement. Mais on aurait aimé voir les politiciens sur place, du moins. On se demandait où étaient les politiciens. On a commencé à les chercher. Justin Trudeau, Valérie Plante était dans le défilé de la Parade Guy à Montréal. Pour ce qui est de François Legault, lui était dans un tournoi de tennis. Il assistait à un tournoi de tennis, puis c'était bien important pour lui, le fameux tournoi de tennis, alors que Québec était sous la flotte. Ils ont été lourdement critiqués oui. par les éditorialistes. Il y a plein de journalistes qui en ont parlé. Là, tout d'un coup, ils sont sortis de partout. Là. C'est notre job là, d'aller voir directement sur le terrain et offrir de l'aide.
C'est rare qu'on les voyait pas intervenir aussi rapidement. T'sais, j'ai pas de souvenir dans une situation un peu catastrophique comme celle-là, où ils sont pas là dans les 24 heures, dans les 48 heures. Mais moi, ce que je me suis posé comme question après, c'est finalement, c'est-tu essentiel? T'sais, est-ce que c'est juste un acte de présence, d'image politique?
Je pense que c'est essentiel à partir du moment où le politicien a quelque chose à dire. François Legault était sur place dans le secteur de Louisville. Il a dit non pour ce qui est de l'intervention de l'armée. Il a dit oui pour de l'aide apportée aux résidents. Ça, il faut que ça se fasse très rapidement pour enlever le stress que tu as de voir ta maison inondée ou peut-être même partir avec le courant.
Mais c'est peut-être aussi essentiel côté image politique et pas juste action politique parce que regarde ce qu'on a fait. On en a jasé bord en bord.
C'est juste qu'ils sont un peu en retard. On en parle avec le chroniqueur politique Jérémy Guillot. Salut Jérémy, merci d'être là, soit dit en passant. C'est le fun de t'avoir. Puis bon retour de vacances si t'es revenu de vacances totalement.
Merci beaucoup. Bonjour à vous deux. Je suis pleinement opérationnel. Ouais.
Parce que c'est le genre à Pascal de déranger les gens pendant les vacances.
Voyons, tu veux.
Ben oui.
Je vais s'ennuyer de Pascal. Je ne ferais pas ça comme ça. Je collabore souvent avec Pascal. Je me suis ennuyé pendant l'été quand même, mais là, je suis content de vous retrouver aujourd'hui.
Ouais. Est-ce que ça t'a surpris de voir à quel point les politiciens ont attendu avant de sortir? Puis pourquoi les politiciens ont attendu? Je sais que Valérie Plante s'est excusée là, du fait que ça a peut-être été un peu long. Y en a-tu d'autres qui se sont excusés? Je ne les ai pas entendus. Mais toi, en tant que chroniqueur politique, est-ce que ça t'a surpris, ça, cette lenteur-là des politiciens à réagir?
J'ai été étonné de ne pas voir beaucoup de bottes de caoutchouc, effectivement, normalement. Souvenez-vous, les inondations en 2017, on avait vu Justin Trudeau avec Philippe Couillard à l'époque, les deux pieds dans l'eau à mettre des sacs de sable. Même chose dans les inondations en 2019. Et je vous entendais, ils n'ont pas grand-chose. C'est important s'ils ont quelque chose à dire. C'est important aussi s'ils ont quelque chose à faire.
Oui.
Et le rôle du politicien, c'est de rassurer la population.
Exact.
C'est d'être présent, c'est d'être là. Pas de nuire aux opérations. Mm-hmm. Pas d'arriver avec une armée de gens, avec une armée de caméras pour s'assurer qu'on le voit sur Instagram et sur Twitter.
Et dans les émissions d'Infoman, là, parce que souvent, c'est pris au ridicule.
Oui, mais c'est d'être sur le terrain, de prendre les commentaires des gens. Tu sais quoi, des fois même les gens vont être fâchés puis ils vont servir un peu ils vont déverser ce qu'ils ont à dire sur les politiciens. Ce sera pas toujours gentil, mais au moins ils vont avoir été présents sur le terrain. C'est pas de la faute des politiciens si Debbie nous a lâché des centaines de millimètres de pluie dessus. Mais attendre 5 jours. Là, le ministre Bonnardel, il est sorti hier en conférence de presse. On était mercredi. C'est 5 jours après la catastrophe. Il y a des milliers de personnes à travers le Québec qui ont vu leur maison être inondée, qui ramassent des débris encore aujourd'hui. C'est pas normal, selon moi, que les politiciens aient attendu aussi longtemps. En même temps, ils disent, eux, avoir été surpris par l'ampleur, que les gens étaient à pied d'œuvre. Monsieur Bonnardel dit avoir fait des entrevues pendant la fin de semaine. Tout le monde manquait d'électricité avec les entrevues, on les a pas vues. Ce qu'on voulait voir, c'est les politiciens sur le terrain.
Jérémy, tu as été en politique en arrière, en stratégie. Tu es maintenant directeur chez TAC, tu es chroniqueur politique. Toi, tu aurais fait quoi ou tu penses que tu aurais fait quoi dans une situation comme celle-là? Est-ce juste une prise de parole ou vraiment faut positionner un sac de terre pour bloquer des inondations? Comment est-ce qu'une communication efficace et professionnelle devrait être faite dans ces genres de catastrophes-là?
La première chose qui aurait dû être faite, selon moi, c'est au moins minimalement une déclaration de François Legault le jour ou le lendemain des événements pour dire que les équipes ministérielles sont à pied d'œuvre. Pas juste des repartages de tweets de M. Bonnardel.
Ouais.
C'est directement des communications du premier ministre. Si c'est pas le premier ministre du Canada après ça, c'est le lieutenant du Québec. Au lieu de flirter avec la course à la chefferie du Parti libéral du Québec, il pourrait moindrement s'occuper aussi du paysage politique au Québec dans sa fonction. C'est déjà à la base une déclaration. Après ça, j'aurais aimé ça voir les gens sur le terrain, pas en train de prendre des selfies puis des vidéos, mais sur le terrain, des députés, des premiers ministres qui contribuent, qui mettent la main à la pâte. Si on voit des gens qui font du bénévolat pour aider leurs voisins, on est certainement capable de voir des élus qui habitent dans leur circonscription normalement de faire la même chose. Et là, je mets un bémol. Il y avait beaucoup de maires et mairesses. On a beaucoup parlé de Valérie Plante qui n'était pas là, mais il y avait des maires et mairesses qui étaient sur le terrain.
Oui.
Je pense notamment dans la région de l'Outaouais. Le maire de Chelsea a déclaré l'état d'urgence. Il était là. Il y avait les deux mandats. C'est important. Il y a des élus qui ont fait leur travail, mais la classe politique provinciale et fédérale, ils ont comme échappé le ballon.
Oui, mais surtout que c'est des policiers qui étaient visibles pendant que toute cette eau-là tombait sur les gens, puis on rapportait dans les médias que c'était le bordel un peu partout. Tu sais, François Legault qui était dans un tournoi de tennis, s'il avait été, je sais pas, moi, il a le droit de prendre des vacances, s'il avait été dans un autre pays, puis bon, il est pas là, ça s'explique, mais de savoir qu'il était dans un tournoi de tennis pendant que tout le monde paniquait, tu sais, ça aurait été quoi de se lever? Puis d'aller directement sur place, je sais pas, la game de tennis, est-ce que c'était si important que ça? T'sais?
Surtout, tu parles à la game de tennis, mais le stade IGA est pas très très loin de Laval qui a été fortement frappé. T'sais, à un moment donné, c'est juste de prendre conscience de ce qui se passe et d'y aller. Puis là, on parle beaucoup de François Legault, de Justin Trudeau, des autres, du gouvernement en place, mais les partis d'opposition ont pas fait mieux dans cette instance-là. Gabriel Nadeau-Dubois était pas là, Marc Tanguay non plus. C'est comme si collectivement, là, les politiciens au provincial et au fédéral ont pas saisi assez rapidement l'ampleur de cette crise-là. C'était éclair, hein? Vendredi soir, ils ont commencé à pleuvoir, les dégâts sont arrivés, puis lundi, on sentait que ça allait déjà mieux, tandis que des inondations, des sorties de rivières, par exemple, ça se prévoit, ça se voit venir d'avance, donc on est capable d'ajuster les agendas des politiciens en conséquence, mais là, il va falloir qu'il y ait un petit post-mortem qui se passe et qu'on regarde si ça arrive à nouveau, au moins d'avoir l'impression qu'ils sont sur le terrain, parce que là, si on en parle aujourd'hui, c'est juste qu'on sentait qu'ils n'étaient pas là, alors que certains l'étaient.
Est-ce que les sondages rendent un peu nerveux les politiciens à la grandeur du Canada puis au Québec? On va se le dire, Justin Trudeau, c'est pas lui qui mène actuellement dans les sondages. Ça doit être la panique dans le bureau à savoir quoi faire pour remonter dans les sondages. Certains, même dans son équipe, ont hâte qu'il quitte pour pouvoir peut-être passer à d'autres choses puis espérer avoir quelqu'un de présentable devant le Pierre Poilievre. Au Québec, la Coalition Avenir Québec aussi semble avoir énormément de difficultés. Le Parti québécois qui est en montée ces derniers mois. Est-ce qu'il n'y a pas de... Au niveau des communications, est-ce qu'ils sont en panique actuellement? Est-ce que tu constates ça, toi, en tant que chroniqueur politique?
Je ne sais pas si c'est de la panique puis les sondages. Moi, j'aurais tendance à dire que c'est surtout... Justin Trudeau, François Legault, ces temps-ci, c'est comme si chaque petite chose qu'il faisait, ça passait moins bien qu'avant. Justin Trudeau, quand on le voit à quelque part, on va le critiquer parce qu'il est là. Quand on le voit pas à quelque part, on va le critiquer parce qu'il n'est pas là. Je sens qu'il y a un peu de nervosité de ce côté-là, parce qu'avant, c'est un événement comme ça, il aurait sauté dans l'eau à pieds joints, il serait arrivé avec ses équipes. Et là, c'est comme si, bon, soit qu'on a échappé le ballon, ou soit qu'on a décidé de ne pas y aller pour ne pas, parce que c'est pas tout le monde qui déchire sa chemise en ce moment, hein. Il y a des gens qui disent, mais c'est correct que les politiciens laissent les gens travailler. On veut pas les voir là pendant ce temps-là. Il y a cette opinion-là aussi qui est sortie dans les derniers jours. Est-ce que c'est vraiment nécessaire de les avoir? Moi, je pense que oui, mais c'est pas tout le monde qui est d'accord. Je traduirais ça pas par de la panique, mais de la nervosité. On a peur de se faire critiquer si on y va, on a peur de se faire critiquer si on n'y va pas. Et le défi de nos politiciens, c'est de trouver l'équilibre, d'en faire assez pour rassurer les gens, en même temps de ne pas en faire trop pour avoir l'air opportuniste.
André, je comprends toutes les voix qui s'élèvent pour les critiques plus violentes, pour les critiques plus difficiles, mais je me dis, si tu t'en vas en politique, d'avoir peur d'être critiqué, si tu prends le plan A ou prends le plan B, ça va avec la job, une critique constructive et ou une critique d'analyse. Là. On est rendu un peu frileux, j'ai l'impression, mais tu sais, c'est une opinion personnelle, Jérémy.
Ben, c'est l'authenticité. Les gens veulent voir de l'authenticité. Si tu vas aider les voisins, reste pas 20 minutes le temps que quelqu'un prenne une photo puis que tu t'en vas après ça. Si tu vas aider, tu vas aider pendant toute la journée. Il y a plein de bénévoles au Québec qui l'ont fait. Il y a plein de gens qui le font. Il n'y a aucune raison pourquoi les politiciens ne le feraient pas. Et c'est, en même temps, j'ai envie de dire, c'est un peu l'emploi pour lequel ils ont postulé en se présentant aux élections. C'est la réalité aujourd'hui. C'est du 7 jours sur 7, du 24 heures sur 24. Tu te lances pas en politique en espérant avoir un bel équilibre de famille-travail.
Oui. Puis le ressenti aussi, les gens le savent, si la personne qui parle, le politicien ou la politicienne, est sincère ou pas. Moi, pendant la tragédie de Lac-Mégantic, Jérémy, j'ai été à l'école secondaire à Lac-Mégantic parce que le point de chute était là. Tu sais, ceux qui avaient besoin de quelque chose ou ceux qui voulaient aller porter des choses, on allait porter ça à l'école secondaire. Puis les caméras d'RDI étaient là, les caméras de TVA. Puis les politiciens faisaient la file, un à la suite de l'autre, puis faisaient des blagues. Puis à partir du moment où ils arrivaient en entrevue avec le journaliste, ben là, tout d'un coup, il y avait un peu de... Il y avait de la peine. Il n'y avait plus de sourire. C'est comme si ça se transformait. Là. C'était le temps de montrer qu'on était très déçus par ce qui venait de se passer, alors que 30 secondes plus tard, moi, je les voyais. Ils étaient à côté de moi. Ils faisaient des blagues. On parle de 50 personnes qui ont été tuées.
Une
là,
communauté
en quelques
décimée,
secondes.
Un centre-ville inaccessible. On a travaillé là ensemble, toi et moi, Yannick. Ouais. Les gens disaient, ben, ça nous prend une heure et demie à aller chercher une paire de chaussures parce que tout est détruit. Ouais. Puis je me souviens très bien qu'un an après, aux commémorations, il y avait la population qui était divisée. C'était 50-50 sur le besoin de commémoration parce que ce qui ressortait le plus de ceux qui étaient en désaccord, c'était on est vraiment tanné des shows de boucan. On est vraiment tanné des shows pour se faire réélire ou encore de la fausse générosité émotionnelle envers nous.
Non, ça m'avait frappé, moi. Comment tu peux faire des blagues 30 secondes avant de rentrer en onde, puis après ça, parler avec le journaliste puis être pratiquement sur le point de brailler, puis tu penses à ces 50 personnes-là qui sont malheureusement décédées. Des fois, Jérémy, je pense que les politiciens devraient faire un petit retour sur eux-mêmes. T'sais. Quand je suis à un endroit où il y a de la tristesse, peut-être que je pourrais m'abstenir de faire des mauvaises blagues. T'sais. Hey, les défis politiques qui s'en viennent pour l'automne, on en a parlé un petit peu. Là. Les sondages montrent que François Legault n'est plus le préféré des Québécois pour l'instant, du moins dans certaines régions. Le PQ est très, très fort en montée. Certains vont dire avec raison de d'autres vont dire, ben, je m'explique mal pourquoi le PQ est en montée. Parti libéral qui stagne. Le parti d'Éric Duhaime aussi qui stagne. Québec solidaire qui est toujours à peu près dans les mêmes chiffres depuis des années et des années. Les partis politiques ont de gros, gros défis, surtout le Parti libéral qui, on va se le dire, là, c'est un cheval mort qu'on tente de réanimer actuellement.
Tous les partis sont dans un exercice de redéfinition un peu à part le Parti québécois. Québec solidaire se cherche après la crise qu'ils ont traversée. Ils vont probablement avoir une élection pour une nouvelle co-porte-parole. Le Parti libéral du Québec, plus en plus de candidats, par exemple, même si on essaie de réanimer un peu le parti, comme tu dis, ça commence à être intéressant. Moi, je prépare mon sac de popcorn, du moins pour regarder. Au moins, on a au moins une course à la chefferie, des candidatures qui commencent à être de plus en plus intéressantes. Denis Coderre, qui fait parler de lui en bien ou en mal, mais il fait parler de lui. On a Pablo Rodriguez, quand même une candidature un ministre fédéral qui a fait ses preuves, qui lorgne. Il n'a pas encore dit s'il allait y aller ou pas, mais on sent qu'il tente le terrain. Moi, je pense qu'il va se lancer pour, c'est ma prédiction. Après ça, on a le maire de Victoriaville, Antoine Tardy, qui, lui, on entend dans les couloirs que Pierre Moreau va présider sa campagne. Hey, donc ça
me
bouge.
Fascine, là, Pierre Moreau. C'est tellement quelqu'un qui a été apprécié, il est tombé malade, là, il reviendrait pour présider une campagne. Donc, peut-être renouveler son rêve politique, mais sans avoir toutes les caméras rivées sur lui ou encore les désavantages de... Ça, j'ai tellement envie qu'on s'en reparle. Ça m'anime, là, Jérémy. Là.
Ben, ou le vivre via l'intermission de quelqu'un d'autre. Hein?
Oui!
Mais M. Moreau a un aura particulier dans le Parti libéral du Québec auprès des membres. Si ça se concrétise, M. Tardy va avoir frappé un coup de cercueil avec son président de campagne. C'est pas assez pour le faire gagner la course à la chefferie, mais au moins, ça va lui donner un bel élan dans la lancée de sa nomination. Et plusieurs dossiers sont chauds pour le Parti libéral du Québec. Puis du côté de la coalition Avenir Québec, on va surtout surveiller la rentrée demain. M. Drainville, le ministre de l'Éducation, va annoncer les chiffres d'enseignants manquants. On le sait, l'année passée, à pareille date, il manquait des milliers d'enseignants. On s'enligne pour avoir une situation, ce qu'on dit au gouvernement, qui va tendre vers l'amélioration. Ça va être le mot-clé du gouvernement. Est-ce que ce sera vrai à voir demain? On devrait annoncer aussi la tenue d'un tableau de bord, un peu comme un tableau de bord à la Christian Dubé en santé, mais pour l'éducation. Donc, ça va offrir aux gens une possibilité de voir les chiffres davantage. Il y a aussi toute la question des négociations avec le syndicat, la FIC, qui, en matière de santé, qui va prendre beaucoup de place à la rentrée parlementaire.
Mais qu'est-ce qui fait que ça se règle jamais avec nos infirmières? Hein? Depuis les années 80, mettons, pour être très honnête avec toi, là, j'étais plus alerte des années 90. Là, Pauline Marois qui avait poussé des infirmières à la retraite. Ça fait quoi? Ça fait 30 ans qu'on a de la difficulté dans nos hôpitaux avec les infirmières qui font des heures et des heures à n'en plus finir, qui sont un peu tannées, qui décident de quitter le métier alors que pour eux, le métier d'infirmière, c'était une vocation. Pourquoi on s'entend pas avec la FIC? Je comprends pas. Est-ce que c'est la FIC le problème ou c'est vraiment les gouvernements qui comprennent pas l'ampleur du besoin que ces gens-là soient dans nos hôpitaux assez présents d'ailleurs?
Je pense que le problème appartient un peu aux deux. Hein. On réglera pas aujourd'hui ensemble en quelques secondes un problème qui dure depuis des années. Le point d'achoppement en ce moment semble être la mobilité. Le gouvernement veut que les infirmières soient capables de bouger de territoire, le syndicat qui se braque un peu contre cette proposition-là. Donc, à voir, quand chaque parti se campe et ne s'écoute plus, ne se parle plus, c'est là que ça fonctionne pas. La machine est rendue tellement grosse que il n'y a plus rien qui connecte entre le gouvernement, on dirait, puis le terrain. C'est géré par des fonctionnaires à Québec. Là, on va voir si ça va s'améliorer avec Santé Québec puis Mme Biron, qui devrait entrer en poste, qui est entré en poste, là, mais Santé Québec devrait être opérationnel d'ici l'année prochaine. Donc, on va voir si ça va changer la donne, mais c'est un problème qui dure depuis des années et c'est pas nous qui va le régler aujourd'hui.
Parce que c'est extrêmement complexe. Hein. Quand on parle avec des gens qui sont directement en théâtre de guerre, là, les infirmières et les infirmiers disent « Ben ouais, si tu te promènes dans deux hôpitaux de Québec, c'est tel que tel, mais si tu pars de Québec puis tu dois aller, exemple, à Sept-Îles, c'est pas les mêmes manières de faire. Le stock est pas placé à la même place. Les collègues de travail, c'est pas toutes les mêmes... Ben, il y en a certains que les professions se ressemblent, mais tu dois t'acclimater... à cet endroit-là pendant quelques semaines, sinon quelques mois.
Donc, c'est pas les mêmes spécialités. Un infirmière qui travaille à l'urgence, une infirmière qui travaille en obstétrique, c'est pas la même chose. Donc, on peut pas demander aux infirmières aussi de pratiquer un type de soins qui ne sont pas habitués. Ça mettrait probablement en danger même certains patients. C'est extrêmement complexe.
Mais Jérémy, je vais te dire quelque chose à toi que je dis souvent à Pascal, parce que j'aime ça dire cette phrase-là. Pourquoi toi puis moi, on comprend ça, ce que les infirmières peuvent vivre en se faisant déplacer d'hôpitaux, puis nos politiciens comprennent pas, puis veulent obliger les infirmières à se déplacer comme ça, puis à être obligés de s'ajuster pendant 3-4 mois à un endroit où ils n'ont jamais travaillé de leur vie en leur disant « ben tu dois être opérationnel rapidement ». Tu sais, pourquoi toi et moi, on le sait, alors que les politiciens semblent dire « ben nous, vous devez le faire pareil ».
Ah, je suis pas prêt à dire que les policiers ne comprennent pas, par exemple. Je pense que M. Dubé comprend très bien. Il est le premier à aller sur le terrain. Je pense qu'il comprend en même temps. Le réseau est frappé par la même chose que toutes les industries et tous les secteurs du Québec. Hein. Il y a une pénurie de main-d'œuvre, il manque de personnel, il y a plus de besoins. Je voudrais pas être dans les souliers du ministre de la Santé. C'est pas un emploi que je voudrais certainement parce qu'il y a tellement de problèmes et de dossiers à régler que on a un peu l'impression que c'est la position matamor. Tu deviens ministre de la Santé, tu es presque voué à décevoir le Québec et le réseau.
Oui, mais en même temps, quand on a des contacts à l'interne là, au ministère de la Santé, puis des gens qui côtoient Christian Dubé, il n'y a pas personne qui m'a dit que ce gars-là ne travaillait pas. Il est 16 jours sur 7 à travailler en tant que ministre. On me dit que c'est le ministre qui travaille le plus fort actuellement à la Coalition Avenir Québec.
Pas juste lui. J'ai fait une entrevue cet été pendant que tu es en vacances, Yannick, avec ceux qui s'occupent de la protection des malades, puis ils sont tellement au bout de croire en quelque chose. Mais malgré tout, ils se disent que les deux maintenant super top gun de la santé risquent d'avoir un impact positif pour une fois. Ils ont confiance en eux, puis ils disent, ça fonctionne pas. C'est comme si j'entendais qu'il allait avoir des démissions de découragement là, dans ce secteur-là. Mais c'est fascinant. Où est-ce qu'on est rendu? Il a fallu attendre le bout pour peut-être prendre des décisions qui allaient bouger. Puis beaucoup de médecins, beaucoup de personnel de la santé qui se font imposer des réformes continuellement se disent, c'est ça aussi le problème. C'est à chaque fois qu'on retourne en élection puis qu'il y a un nouveau gouvernement qui est élu, c'est une nouvelle vision qui est élue aussi, ce qui fait en sorte qu'on a des solutions pour quelques années. On prend le temps de les intégrer, puis après, il faut tout revamper à nouveau. Et ça cause des retards immenses en santé.
Jérémy Guillaume, merci beaucoup. Tu vas retrouver Pascal Cervé. Tu dois être content.
Moi, je suis content.
Je suis content aussi. On se parle pour la première fois. Merci à vous deux de m'avoir reçu aujourd'hui.
Le plaisir a été pour nous. Merci beaucoup.
Bye-bye.
Jérémy Guillaume, qui est chroniqueur politique. Donc, bon, lui.
Ah, il est excellent, Jérémy.
Il est allumé, fun.
Il
est allumé comme un rond de poêle. On les aime, ces gens-là. OK, hey, on s'en va à musique. Nous autres, Green Day, Boulevard of Broken Dreams sur les ondes de Boulevard.